Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis pour cette nouvelle édition d'Escale. En début d'année, l'UNICEF a lancé le plus important appel de fonds de son histoire, 3,1 milliards de dollars pour venir en aide à un plus grand nombre d'enfants dans situation d'urgence. Avec cet argent, l'UNICEF espère financer toute une gamme d'activités pour assister les millions d'enfants dont la vie a été brisée par des conflits complexes et destructeurs, des catastrophes naturelles, des épidémies à propagation rapide et d'autres situations d'urgence encore. L'appel lancé est destiné à aider 98 millions de personnes au total, dont environ les deux tiers sont des enfants, et ce dans 71 pays. Pour en savoir plus, Christina Silvero a tendu son micro à Dominique Hyde, directrice adjointe des partenariats publics de l'UNICEF.
And all your soldiers against the boy, holding a stone. Standing there.
C'est un appel pour 3,1 milliards de dollars. C'est un record, comme vous l'avez dit. C'est pour venir en aide à 62 millions d'enfants en danger dans les crises humanitaires partout dans le monde. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça représente vraiment un bond de 1 milliard de dollars de plus depuis l'an dernier.
Alors, l'UNICEF souligne notamment une nouvelle génération de crises.
On a vu en 2014 que ça soit la crise de l'Ebola, que ça soit la crise syrienne et les réfugiés qui perdurent, et des crises qui touchent environ 230 millions d'enfants qui sont touchés par toutes ces crises dans le monde, que ça soit naturel, comme on a vu aux Philippines avec le typhon, que ça soit l'Ebola avec des crises de santé, ou les crises faites comme on voit en Syrie, etc.
Alors justement, conflit armé, l'UNICEF nous dit qu'un enfant sur 10 sur la planète est touché par les conflits armés.
Eh oui, un enfant sur 10, c'est déplorable. Ce sont toujours les enfants qui sont le plus touchés par les conflits armés. Ce sont ceux qu'on oublie en premier. C'est leur éducation qui est perdue lors de ces conflits. Souvent, ils perdent un parent, sinon deux. Ils voient des choses qu'aucun enfant ne devrait voir.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des principales régions qui sont affectées par les conflits? On connaît la Syrie, on connaît les grands. Mais...
La plus grande partie de l'appel, comme vous venez juste de le dire, concerne la Syrie et la sous-région. L'UNICEF a demandé 903 millions de dollars au titre d'une intervention régionale à ce sujet. Et ensuite, notre deuxième plus grosse demande, c'est vraiment l'Ebola, suivi de la République centrafricaine et du Sud-Soudan. Donc les grosses crises qui étaient là en 2014 qui continuent. Mais il ne faut pas oublier les Afghanistan, le Pakistan et beaucoup d'autres pays au Sub-Sahara aussi qui continuent d'être affectés par des crises humanitaires qui touchent les enfants tous les jours.
Alors, autre facteur, ou en fait, un des facteurs qui contribue à ces crises, selon le Fonds pour l'enfance, c'est la fracture sociale.
Cette fracture sociale, on la voit de plus en plus, surtout dans les conflits qui continuent où vraiment la famille se désintègre. Au Nigeria, où les attaques menées par des groupes armés se sont multipliées l'année dernière, on voit aussi de plus en plus d'enfants qui sont obligés de fuir leur foyer. Et on est très inquiet. Enfin, vous avez vu ce qui se passe en termes de Boko Haram et de l'éducation de ces enfants. Et on se demande ce que ça veut dire pour la prochaine génération.
Alors, chacune de ces crises, en fait, provoque une problématique différente, provoque des situations différentes et font subir aux enfants des pertes et des situations différentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un tour d'horizon pour les conflits armés? Les enfants, vous avez déjà évoqué, ils perdent des parents, ils se retrouvent sans repère, sans école, ils sont souvent les plus oubliés. Vous pouvez nous faire un peu un tour d'horizon par type de crise? Quelle est la réponse? Qu'apporte l'UNICEF? Que subissent les enfants et quelle est la réponse qu'apporte l'UNICEF?
Disons qu'on peut partir de l'Asie, aller ensuite vers le Moyen-Orient et finir peut-être en Afrique et peut-être sans oublier l'Ukraine aussi. Comme ça, on touche un peu à toutes les crises, les grandes crises qu'on voit. Donc, dans les crises naturelles telles qu'on a vues aux Philippines, c'est vraiment un appui immédiat en termes de nutrition, d'aliments pour les enfants, des vêtements, parce que les familles ont tout perdu, n'ont plus rien. C'est ensuite, bien sûr, rebâtir des écoles, même si c'est des écoles temporaires, pour qu'en fait, il y ait un sentiment de regain de vie normale aussi rapidement que possible. C'est s'assurer que les vaccinations qui ont peut-être arrêté recommencent assez rapidement. Aider les mamans qui s'apprêtent à donner naissance et qu'on ait des systèmes temporaires de santé pour accoucher et qui soit un lieu sûr, mais aussi l'eau et l'assainissement qui souvent sont des causes aussi qui peuvent entraîner des problèmes de santé. Donc mettre tout ça en place, et donc c'est un peu ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire, qu'on a fait aux Philippines. Ensuite, si on continue dans les régions, disons l'Afghanistan, le Pakistan, où ce sont vraiment des conflits qui continuent, et là c'est vraiment un investissement continu en éducation, particulièrement dans ce cas-ci, et en nutrition, et aussi tout ce qui est vaccination de polio, où on voit beaucoup d'enfants qui meurent de polio et dans cette région-là. Pour notre personnel, il y a énormément de défis pour rejoindre des régions et les régions les plus éloignées où il y a des questions de sécurité qui les affectent pour essayer d'aider les enfants les plus vulnérables. En Syrie, et surtout dans la région, les cas qu'on voit, c'est des enfants qui traversent tous les jours avec leur famille ou sans leur famille les frontières. Et certains de ces enfants traversent sans parents. Et donc, une des choses que l'UNICEF essaye de faire, c'est de vraiment cette réunification des parents. Et la même chose dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, avec en République centrafricaine, où beaucoup de notre travail a été de réunifier les familles, de retrouver, que ce soit la maman ou le papa ou qu'ils aient perdu par hasard, ou durant le conflit armé, ou si, cas échéant, le papa et la maman ne sont plus là, un membre de la famille qui va pouvoir les aider. Donc on regarde vraiment tout ce qui peut affecter la vie d'un enfant et aussi tout ce qui est un appui psychosocial. Souvent on oublie ça, mais les enfants ont aussi besoin d'un moment où ils vont pouvoir jouer, où ils vont pouvoir oublier pendant quelques temps le conflit qui a lieu et se reposer. C'est aussi bon pour les parents de reprendre un peu de temps pour aller chercher de l'eau, aller s'assurer que tout le reste et qu'ils aient un peu de temps pour eux-mêmes. Et ça, on le voit partout. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais les enfants ont besoin de ça. Et à travers l'appui psychosocial, j'ai vu personnellement des enfants qui arrivaient, qui traversaient les frontières, qui arrivaient, qui dessinaient que des dessins tout noirs, et au bout de quelques mois, d'appui psychologique vraiment changeait.
Vous étiez où ?
Ça, c'était en Jordanie.
Vous avez rencontré un enfant qui vous a particulièrement touché ?
Un jour, alors en Jordanie, c'est le deuxième pays dans la région où il y a plus de réfugiés après le Liban. J'étais la représentante de l'UNICEF à cette époque. Et en fait, le grand nombre de réfugiés est en site urbain. Et j'étais allée voir un centre que l'UNICEF appuyait. Et il y avait deux petits garçons, deux frères, qui venaient juste d'arriver. Et ils ne regardaient personne, ils n'arrivaient pas à communiquer. Ils étaient arrivés il y a quelques jours en courant, en traversant la frontière après que leur village ait été détruit, ou du moins leur habitation. Et ils ne communiquaient pas. Et alors, ils étaient tous assis en groupe. Les autres enfants qui avaient déjà été là depuis quelque temps interagissaient. Mais ces deux petits garçons ne faisaient que des traits noirs et n'avaient aucun contact visuel. Et j'y suis retournée 6 mois plus tard. Et je ne dirais pas qu'il y avait le bonheur quand même, parce qu'il y avait quand même une crainte encore. Et j'imagine que leur vie familiale à la maison n'était pas... étaient encore pleines de souffrances, mais ils avaient retrouvé leur sourire, ils avaient retrouvé certains liens d'amitié avec d'autres, et ils étaient capables de me regarder, et on voyait à travers leurs dessins des dessins de maison, de soleil, et donc les changements, même en 6 mois, on les voit.
Vous avez évoqué l'appui psychosocial. Je ne peux que penser aux enfants de Gaza aussi.
Oui.
Alors, comment se portent les enfants de Gaza ? Est-ce que l'action continue ? Il y avait eu un décalage de la rentrée de l'école, justement, pour mettre en place des programmes adaptés. Alors, que s'est-il passé ? Où en sommes-nous ?
Pour nous, là, la situation à Gaza, c'est une situation très inquiétante. Surtout, c'est une de nos opérations qui est la moins financée. Donc, on est contraint même dans nos actions parce qu'on reçoit si peu de financement. On travaille en collaboration avec l'UNRWA, avec l'agence qui s'occupe des Palestiniens. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas envoyer autant d'enfants à l'école. Ça veut dire aussi que tout ce qu'on fait en termes de désalination de l'eau, pour apporter plus d'eau aussi potable aux enfants, on n'est pas capable de le faire. Donc en fait, à ce point-ci, beaucoup d'inquiétudes pour ces enfants, où il y a si peu d'espoir.
Vous avez évoqué aussi l'épidémie d'Ebola. L'UNICEF a joué un rôle très important au niveau de la sensibilisation. C'est aussi un autre aspect de l'action de l'UNICEF.
Oui, alors au Sierra Leone, au Liberia, en Guinée, l'UNICEF a joué un rôle de sensibilisation auprès des communautés sur tout ce qui était se laver les mains, comment s'assurer de ne pas attraper le virus, comment se protéger et comment disséminer cette information-là à travers les communautés les plus lointaines dans les villages et qu'ils apprennent en fait comment se protéger. On a aussi travaillé sur mettre sur pied des centres communautaires de santé avec nos donateurs principaux, que ce soit les Anglais, les Américains, les Européens. Et on a pu mettre sur pied des centres où les familles allaient et pouvaient recevoir un appui sanitaire.
Est-ce que l'aide que va apporter l'UNICEF en 2015 pour Ebola va continuer dans les mêmes domaines ?
Je pense que ça va être une situation très différente au Liberia, que ça le sera par exemple au Sierra Leone. Au Sierra Leone, on continue de voir le montant d'enfants et de familles qui augmente. Donc notre appui en termes de santé, en termes d'appui en eau, en assainissement et vraiment de la construction de ces centres de santé et de travailler avec le ministère de la Santé continuera. Continuera aussi au Liberia, mais où on doit vraiment être en ce moment, c'est un moment de reconstruction. Les enfants n'ont pas été à l'école depuis des mois, donc c'est vraiment le retour à l'école, continuant la sensibilisation qui doit continuer et ne pas être perdue, et aussi vraiment s'occuper de ces enfants qui ont perdu ou leur père ou leurs deux parents, ou leur mère, et leur retrouver des endroits sains. Donc vraiment investir dans le long terme en termes de santé, parce que je pense que c'est une des choses qu'il faut continuer de faire, parce qu'on s'est rendu compte que les systèmes de santé, surtout au niveau des districts et des communautés, n'étaient pas capables de répondre à la crise Ebola. Reconstruire tout ce qui est système éducatif, reprendre l'éducation qui a été perdue pendant tous ces mois pour ces enfants, et remettre les enfants avec leur famille.
En Guinée, pareil aussi, ils ont fait la rentrée déjà.
Voilà, ils ont recommencé l'école et ça se passe bien. Notre directrice adjointe vient juste, Gita Raogupta, vient juste d'y mettre pied en Guinée et a pu voir les enfants qui retournaient en classe et le bonheur.
Rendez-moi ma jeunesse, tenez vos promesses. Je refuse de grandir dans un monde de douleur et de tristesse.
Qu'espérez-vous voir pour 2015 alors ?
J'espère surtout qu'en 2016, j'aurai pas besoin de faire une autre entretien de radio comme celle-ci, ou au moins si on refait un autre entretien où on peut dire qu'on a besoin de moins d'argent, que la situation s'est améliorée et que les grosses crises, surtout les conflits armés, comme on a vu au Soudan, comme on voit en République centrafricaine, se soient terminées. Les crises naturelles, il y en aura toujours, on ne peut rien y faire. Mais j'espère aussi qu'on ait pu investir dans l'avenir des enfants, c'est-à-dire dans leur santé, que ce soit les vaccins, à travers les vaccins, qu'on ait pu rapporter un petit peu de bonheur dans ces situations de conflit qui sont si difficiles. Et peut-être aussi reconstruire aussi tout ce qui est en termes de santé, vraiment bâtir des soins de santé au niveau communautaire, pas seulement dans les capitales, qui soient plus fortes, pour dans le cas qu'il y ait une autre crise Ebola de cette, et qu'on soit plus prêt à y répondre.
Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit ? Ça à des enfants.
Et c'est ainsi que se referme ce magazine Escale, un magazine que vous pouvez retrouver, tout comme nos autres programmes et journaux, en podcast ou sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.